voix nue. Cette semaine, Élise Gruau rencontre Yannick Lahens. Ce soir, être sur la brèche, écrire sur la faille.
Yannick Lahens, bonsoir.
Bonsoir.
Yannick Lahens, vous êtes une écrivaine haïtienne, vous êtes romancière. Et nous avons évoqué au cours de nos précédents entretiens votre action militante, votre action citoyenne en faveur de réformes de l'enseignement en Haïti, qui ont vu l'introduction du créole dans les petites classes d'école. On a évoqué l'effervescence intellectuelle autour de la revue Chemin Critique et la publication de vos premières nouvelles. Mmh. Aujourd'hui, pour notre quatrième entretien, j'aimerais qu'on parle plus fortement de votre écriture. Et notamment, à partir de 2008, vous publiez La couleur de l'aube chez Sabine Vespizer Éditeur. Alors, La couleur de l'aube, c'est un roman qui nous plonge dans une histoire d'une attente anxieuse de deux sœurs envers leur jeune frère qui a disparu. Et on est dans un milieu populaire.
Urbain.
Et urbain. Et c'est une histoire traversée par une violence qui plane. Mmh. Comment avez-vous trouvé l'inspiration de ce livre, La couleur de l'aube ?
Alors, certainement par l'expérience, parce qu'à ce moment-là, j'étais en relation étroite avec des organisations de femmes, des organisations d'étudiants, des organisations de la société civile, on dirait. Et il m'est arrivé donc d'aller beaucoup dans les quartiers populaires à ce moment-là, urbains, de Port-au-Prince. Cette immersion m'a permis de tirer une intrigue, des réflexions, enfin une musique aussi, pour écrire ce roman. Comme dans la plupart de mes romans, je place toujours ce mystère au début. Je me rends compte maintenant qu'à chaque fois, il y a toujours une interrogation au début. Et je me suis donné une contrainte, c'est l'unité de temps. 24 heures. Le roman commence à l'aube, puisque la maison se réveille, et se termine à l'aube, voilà, quand on va connaître finalement le dénouement de cette affaire. Ça m'a permis aussi de mettre en lumière ce que j'avais appris à mieux comprendre, c'était le statut, le mode de vie, la vulnérabilité et la très grande force aussi, donc l'humanité, des femmes du milieu populaire. Et c'est comme ça que j'ai imaginé mes personnages et aussi l'intrigue qui renvoyait à la fois à la violence de ce milieu, mais c'est beaucoup plus la violence subie par ces populations parce que elle est quotidienne. Comment faire pour payer l'école des enfants, comment faire pour manger, comment faire. Et pourtant, au bout de la journée, on arrive à manger. Et c'est toujours une mère qui se débrouille, on arrive à manger. Au bout du compte, au bout de l'année, on arrive plus ou moins à payer l'école. Et voilà, la scolarité se fait. Donc c'est cette espèce de savoir, finalement, comment arriver avec ce peu à tenir, à faire humanité, à continuer à vivre, à rire, voilà. Et ça, quand on est de l'autre côté, c'est pas évident de le comprendre. Et de comprendre aussi peut-être cette sagesse qui fait que les gens continuent malgré tout, parce que il y a une patience infinie. Parce que ça, les gens endurent ça de génération en génération. Je dis souvent que le peuple haïtien a une patience, mais infinie. Et les quelques soubresauts, enfin, on a un ou deux actes de casse de voiture, qu'on retrouve ailleurs dans des sociétés où l'abondance existe, où les gens ont accès à l'école, accès à l'eau. Moi, je trouve que il y a une patience infinie à tenir. C'est très peu par rapport à la violence subie.
Est-ce que vous êtes allé faire des entretiens avec des femmes, dans des familles, ou est-ce que vous avez observé ?
Je n'avais même pas besoin de faire des entretiens, je n'ai pas eu besoin de le faire, puisque j'étais avec des femmes de milieu populaire quand on allait. Donc je voyais, j'observais. Et l'autre chose aussi, l'urbanisation est telle en Haïti que même moi qui vis dans un quartier plus ou moins privilégié, J'avais écrit d'ailleurs un article pour Libération. Je disais que ma chambre est le centre du monde. C'est pas par présomption du tout. Derrière le mur, il y a un bidonville. Et de l'autre côté, c'est de l'autre côté de la barrière, à l'entrée, il y a une brasserie, enfin un magasin de design. Enfin, on se croirait dans n'importe quelle ville. Donc, tous les jours, je vois ça. Donc, il m'arrive de me réveiller. Bon, j'habite la maison depuis assez longtemps. Je connais même deux ou trois personnes qui sont dans ce bidonville. En fait, qui n'est pas... C'est un presque, on appelle ça un bétonville. Parce que, en fait, ce sont des maisons quand même en dur. C'est pas la misère absolue. Mais je regarde les gens, j'observe et on se rend compte que les gens ont des problèmes pour accéder à l'eau. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va chercher l'eau le matin. Enfin, donc, on peut, si on n'est pas aveugle, tout de suite, on voit la débrouillardise qui doit se déployer dès le réveil jusqu'au coucher. Il y a les chômeurs qui jouent au domino, donc on entend le bruit des dominos sur la table. Il y a de tout.
Vous recevez les échos du monde directement sur votre table de travail.
Absolument, absolument. Et c'est très bien.
Est-ce que le dispositif des deux sœurs qui attendent le petit frère Fignolé dans la couleur de l'aube, est-ce que c'est un écho aussi à votre propre fratrie? Vos deux sœurs.
Je n'y avais pas pensé. Mais oui, et le jeune frère. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je voulais surtout, c'est de montrer comment un même événement, l'irréductibilité de chaque être humain. Parce que ce qui était important pour moi, c'est que deux sœurs vivent un même événement, mais reçoivent l'événement. Et portent l'événement de manière complètement différente. Mais en même temps, celle que j'appelle joyeuse, il y a un peu de l'angélique en elle. Et dans Angélique, il y a un peu de joyeuse aussi. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer la complexité des personnages. On aurait pu penser que joyeuse, voilà, elle est complètement superficielle, etc. Pas du tout. Et Angélique, on pourrait croire que c'est la jeune femme convertie au protestantisme, ascétique, etc. Pas du tout. Et c'est le monologue, justement, entrelacé, entrecroisé, qui m'a permis de montrer cette complexité. Parce que le roman avance, c'est un monologue après un monologue. Donc, à chaque fois, on a un éclairage de l'événement, d'un événement, par une des sœurs, et en même temps, on avance dans l'intrigue et dans la recherche de, voilà.
Et là, c'était 2008. Et donc, déjà, vous avez ce sentiment d'écrire sur la brèche. Et 2010, c'est le terrible séisme qui ravage Haïti, le 12 janvier 2010.
Terrible.
Alors, vous vivez l'événement, et puis vous en tirerez un texte qui s'appelle « Faille ».
Alors, il faut dire que depuis quelques mois qui ont précédé l'événement, moi j'écoutais à la radio, des sismologues, haïtiens, un cubain. Et du coup, ça réveillait en moi un souvenir de l'article que j'avais lu sur quand il y avait eu, je crois, en 1998, un séisme à Los Angeles, à San Francisco. Et on disait, dans la vingtaine d'années qui suit, il y aura quelque chose dans la Caraïbe. Alors, du coup, quand j'écoutais ces spécialistes parler à la radio, je me dis, oula. Donc, quand il y a eu la première secousse, j'ai su tout de suite. Il y a des gens qui disaient à eux, mais ils ne savaient pas ce que c'était. C'était un camion qui passait. J'ai tout de suite que c'était un tremblement de terre.
Où étiez-vous?
J'étais chez moi. Et là, moi, je regarde cette maison. Je me dis, mais elle va s'écrouler. Parce que je la vois se déplacer de 2 mètres carrément. Je savais qu'il fallait aller dans l'embrasure d'une porte. Ou bien, bon, je suis allé vers la porte de sortie du garage. Je vois la voiture qui vraiment sautille, quoi. Je dis, oula. Et j'entends les cris. Une fois que la première grande secousse, j'entends les cris dans le fameux bidonville à côté. Je vais regarder, aucune maison détruite. Donc, je n'imagine pas ce qui se passe en ville, où il y avait vraiment l'épicentre. Alors, tous les gens du quartier, on se retrouve dans la rue. Il n'y a qu'une ou 2 stations de radio qui fonctionnent. Oula, on se dit, mais c'est pas possible. Et on commence à écouter. Et là, on entend que le palais national s'est effondré. Alors là, on mesure, en fait, la gravité des choses. Mais ce qui était terrible, c'est qu'à un moment donné, on entendait des gens qui appelaient les stations de radio. Je suis à tel endroit, en fait, je suis sous les... Non, ça, c'était horrible d'entendre la voix des gens sous les gravats qui appelaient. Et mon conjoint, donc, qui était en ville, et j'ai pas de nouvelles de lui, mais à un moment donné, il appelle, parce que c'était très... Et il dit à mon frère de... Il faut descendre, etc.
Descendre,
me dit quelque... En ville, parce qu'il était en ville, mais il me dit quelque chose que je ne comprends pas très bien. Et alors mon frère descend. Quand mon frère arrive à, même pas à mi-chemin, on lui disait même pas la peine d'essayer de descendre, tu pourras pas. Donc, lui va à la seule station de radio qui fonctionnait. Il dit, écoutez, il y a des employés de la Banque Centrale qui sont coincés. Moi, je ne sais même pas exactement ce qui se passe. Et... À 10h du soir, mon mari arrive, en fait, et la seule chose qu'il peut me répondre, j'ai vu l'apocalypse. Elle est complètement abattue. Hein. Et c'est le lendemain qu'il raconte. Parce que lui est passé, il a traversé toute la ville avec... Mais c'était horrible. Les enfants des écoles qu'on mettait dans l'arrière de pick-up, parce que il y avait tellement de morts. Et lui-même avait été coincé donc dans le coffre-fort de la Banque Centrale parce qu'il n'avait plus l'endroit où passer. Il était avec deux assistantes. Et elles se sont retrouvées parce qu'une fois qu'on franchit cette porte, la porte se ferme. Et il y avait pour 2 heures d'oxygène. Donc c'est par la radio que les gens ont su qu'il était avec ces deux assistantes dans le coffre et qu'on est venu avec tout ce qu'il fallait pour les sortir. En fait, moi, à la maison, j'ai recueilli, je ne sais pas moi, une douzaine de personnes. En fait, mon frère chez lui avait recueilli aussi. Je me dis, mais si les gens manquent d'eau à la maison, tout de suite, c'est la mère Louve qui... Je me dis, s'il manque d'eau, s'il manque de ceci. Donc, organiser la maison pour que les gens soient bien. La peur de dormir dans la maison, donc tout le monde dormait dehors. Ma mère, qui vit avec moi, était dans la maison. Donc, ça a été extrêmement dur. Moi, j'ai voulu écrire parce que c'était tellement exceptionnel. Et puis, moi, j'allais tous les jours, je sortais. Je me dis, mais c'est pas, je dois écrire toute cette souffrance et puis la solidarité des gens. J'ai sorti ce livre, Faille. C'était pour moi une manière d'exorciser tout ça et puis peut-être de commencer à penser les blessures, mais elles ne sont jamais complètement cicatrisées parce que je crois que 5 ans après, on m'a invité en Martinique. C'était une colloque sur les catastrophes. Et même à un moment donné, je lis le texte et je me dis, mais non, mais... Je sens une boule monter, je me dis, mais 5 ans après, je me dis, oui, je vais lire un passage comme ça, sans vraiment d'appréhension particulière. Et en lisant le texte, c'est comme si tout remontait, comme ça. Donc finalement, la cicatrice, elles ne sont pas tout à fait fermées, hein, les blessures.
Vous évoquez combien l'émotion n'est pas terminée, combien la cicatrice est encore vive, et vous dites, tout ce que ça fait remonter en moi. Et vous disiez, cette faille sismique, cette faille géologique, elle a fait ressurgir aussi des failles qui étaient en moi, qui étaient en nous tous.
Ah ben bien sûr, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, à la fois les failles de la société, parce qu'il y a tellement de failles en Haïti, sociales, économiques, et puis les failles de chacun de nous, forcément, parce que là on touche aussi l'intimité. Et heureusement, enfin, pour nous heureusement qu'il y a des failles. Je ne sais plus qui disait, c'est par les failles que la lumière peut arriver aussi. Donc, il faut ces failles-là pour qu'on les surmonte, pour qu'on travaille dessus. Mais la chose qui était frappante aussi, je me suis dit à un moment donné, mais Haïti a une histoire tellement atypique et unique. En plus, elle se trouve entre la faille du Nord et la faille du Sud. En plus, elle se trouve sur la route des cyclones.
C'est ce qui a frappé beaucoup les esprits aussi à cette époque.
Alors on se dit, c'est une accumulation de choses incroyables. Et arrivaient aussi des textes auxquels on n'avait pas prêté attention du 19e siècle, qui racontaient. Un livre comme Port-au-Prince au cours des siècles, alors c'est un haïtien qui a fait une compilation, mais tremblement de terre. Et à cette occasion, on s'est rendu compte que Haïti, donc, est dans cette vulnérabilité depuis toujours, puisque des textes du 19e siècle qu'on s'est mis à relire, beaucoup d'entre nous, on s'est rendu compte qu'on mentionnait l'incendie de Port-au-Prince, le tremblement de terre du Cap Haïtien, avec ce qui est décrit comme étant un tsunami. Parce qu'on dit que l'eau arrive jusqu'à telle rue, donc on se rend compte que c'est un tsunami. Tremblement de terre à Port-au-Prince, tremblement de terre dans d'autres villes. Je pense qu'à ce moment-là, certains d'entre nous se sont rendus compte de l'énorme fragilité physique du lieu, déjà, qui vient renforcer une fragilité historique, dans une certaine mesure, voilà.
Et dans votre œuvre, Haïti, c'est un sujet permanent qui vous interroge, que vous recherchez. C'est vraiment Haïti, le microcosme du monde. Et vous dites combien c'est aussi cet événement du séisme a fait ressurgir Haïti comme matrice des rapports Nord-Sud.
Absolument. Je pense que moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, je voyais arriver par Internet tellement d'interrogations de gens qui ne savaient pas où se trouvait Haïti, d'ailleurs, pour commencer. D'autres qui, à la faveur du séisme, sont allés chercher et qui se disent « Ah bon ?» Donc, la troisième révolution des temps modernes, c'est Haïti. Parce que Napoléon, c'est quand même la plus grande armée de l'époque. Il envoie son beau-frère, c'est tellement important. Mais à ce moment-là, les colons, enfin, surtout leurs représentants, ne sentent pas qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Parce qu'ils font de plus en plus, ils intensifient la traite, ils font de plus en plus venir des esclaves. Donc ils sont minoritaires en nombre. Et les chefs de la Révolution sont des stratèges de l'armée de Napoléon. Ce sont des officiers de l'armée française. Toussaint Louverture est un officier de l'armée française. Ces esclaves-là n'ont pas le temps d'être formatés, apprivoisés dans le système esclavagiste, comme ce qu'on appelle les esclaves créoles, ou bien les créoles, qui sont déjà dans le système. La grande majorité arrive. Les chefs, les stratèges militaires, les entraînent dans la guerre d'indépendance. Eux aussi veulent se révolter contre les conditions. Et la tête grande majorité n'est pas encore entrée dans le système occidental. Ce sont des gens arrivés d'Afrique, de régions différentes. Il y a eu 25 ethnies, 24. Et eux qui décident, une fois l'armée de Napoléon vaincue, organise une réexistence qui n'a rien à voir avec la grande plantation. Même après l'indépendance, les nouveaux maîtres veulent reprendre en fait le modèle. Ça les arrangerait d'avoir eux aussi. La grande masse des paysans tourne le dos et crée une autre culture qui a une culture autour de la vie communautaire, autour de la petite propriété, autour de la diversification des cultures, en fait tout ce que l'écologie aujourd'hui recommande d'ailleurs, et le sacré, qui est le vaudou, et donc échappe à la logique moderne, capitaliste ou même sociale. Ils échappent à ça complètement. Donc c'est intéressant parce que c'est une société neuve, mais qui se crée avec des éléments de société traditionnelle, mais pas seulement africaine. On oublie souvent qu'il y a des éléments de la France du XVIIIe siècle, dont la culture haïtienne populaire et paysanne. Par exemple, moi je lis « Mémoire d'un paysan bas breton », il y a beaucoup de bretons là, mais je retrouve des choses d'Haïti. Un service vaudou haïtien ne commencera jamais sans des prières de la religion catholique. Voilà, donc c'est une sorte de rencontre de syncrétisme de tout ça qui va donner en fait, la religion, le sacré, ce sens du sacré. Et peut-être une forme d'autorégulation, parce que c'est une population qui échappe d'ailleurs au contrôle, un peu, jusqu'à une époque, qui échappait au contrôle de l'État. Un État qui est conçu comme sur le modèle européen, avec le code Napoléon d'ailleurs, qui reprennent, et qui ne correspond absolument pas à cette population majoritaire. Absolument pas.
Dans Faille, donc ce récit que vous faites paraître à la suite du tremblement de terre, donc en 2010, aux éditions Sabine Vespizer, vous évoquez aussi vos descentes dans la ville, vous êtes un témoin qui va à la rencontre aussi des événements. Et en même temps, vous avez en vous un autre roman qui est en train de s'écrire et qui est en train de pointer, qui deviendra Guillaume et Nathalie.
Alors ce roman, je l'avais en tête depuis longtemps. Je voulais faire un roman d'amour en Haïti. Et alors je me disais, comment faire, parce que je ne veux pas répéter quelque chose qui soit un roman d'amour comme peut-être qu'on verrait à Paris ou à New York. Alors comment faire, comment trouver le mot juste. Et j'avais imaginé donc que ce couple, petite bourgeoisie, dans un lieu particulier. Et je vais donc dans ce lieu, parce que j'avais le roman quand même en tête. Donc dans mes déambulations en ville, je dis, tiens, je vais passer. Et l'immeuble, je vois pas d'immeuble. Alors c'est intéressant, parce que quand on a des repères, et quand on repasse dans un lieu et que le repère a disparu, on est complètement perdu. Ça, c'est une des expériences avec le tremblement de terre. Et je demande à quelqu'un, mais l'immeuble, il me dit, ah, il est effondré. Il me dit, ah ben, presque tout le monde est mort, etc. Et là, ça m'a fait un choc. Et en remontant à la maison, je me suis dit, il faut absolument que je commence. Et donc, j'ai commencé à écrire les premiers mots de ce roman. J'avais même l'impression que mes personnages étaient sous les décombres. Et je me dis, ah non, il faut absolument que je les ressuscite. Et j'ai commencé à écrire le roman. Donc, le roman s'est intégré
dans le récit.
Absolument. C'est une manière de dire que finalement, bon, il y a quelque chose de stimulant aussi dans tout ça. Parce qu'on a l'impression que l'écriture peut sauver tellement de choses. Même des personnages qu'on... Voilà, c'est cette espèce d'articulation, le réel, l'imaginaire. Voilà. Et les mots peuvent sauver ça, c'est bien. Oui.
Est-ce que l'urgence, c'est propice à l'écriture?
Ah, certainement. Moi, je pense que l'urgence en Haïti, c'est depuis le départ. Les mots écrits ont créé cette nation, au moins aux yeux de l'extérieur, parce qu'on écrit pour dire qu'on existe, mais ce n'est pas seulement Haïti. On écrit pour dire que, bon, tous les hommes sont égaux. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une forme de résistance. Je pense que à la fois la littérature, la musique, que les arts plastiques, n'en parlons pas, ça continue à être une forme de résistance. Et je regarde la relève qu'il y a aujourd'hui en Haïti dans ces domaines-là, je me dis que c'est certainement ceux qui sauvent du chaos, parce que la vitalité, la créativité, elle est là. Oui, elle continue d'être là. Et dans tous les quartiers. Populaire et dans toutes les régions, voilà.
Yannick Lins, dans ce récit Faille, vous évoquez aussi des ateliers audiovisuels que vous avez menés auprès de populations, de personnes qui avaient été déplacées dans des camps suite au séisme, à la destruction de quartiers entiers.
L'association existait déjà, je faisais des petits courts-métrages avec des élèves. Comme c'est un pays très cloisonné socialement, je faisais travailler ensemble des élèves de quartiers populaires et d'écoles plus ou moins privilégiées qui se rencontraient autour d'un thème. On leur expliquait le thème et ils avaient une petite initiation, comment tenir une caméra, comment faire. Et comme ça, on avait fait déjà un certain nombre de films, dont un très, très beau court-métrage qu'ils ont fait de 20 minutes en milieu paysan. Parce que beaucoup d'entre eux n'étaient jamais allés à la campagne. Et ça a été vraiment extraordinaire, ce petit film. Et quand est arrivé le CI, je me suis dit, bon, on va continuer dans le même sens. Et donc, dans le plus grand camp de Port-au-Prince, J'avais donc des contacts par tous ces gens que je connaissais. Et on a réuni des jeunes qui étaient dans le camp. Un ami psychologue a fait une sorte de thérapie de groupe, parce que c'était dur, le mode de vie. Et j'avais des enfants qui, fraîchement arrivés de la campagne, donc qui ne parlaient pas français, des enfants qui étaient dans une des meilleures écoles. Voilà, tout ce monde-là, se mettre ensemble et faire un film. Et c'était bien, ça a donné deux petits courts-métrages. Donc ce travail aussi dans le camp, c'était assez formidable, parce que quand il y a eu la restitution dans le camp, il n'y avait évidemment pas d'écran, rien du tout. Donc je suis arrivé avec un drap blanc de chez moi, on a accroché ça aux arbres la nuit, c'était une ambiance fantastique. Donc ça a été aussi une expérience de permettre aux jeunes à ce moment-là d'avoir cette parenthèse, quoi. Et une fois ces petits films réalisés, je les ai projetés. Je me souviens très bien au centre culturel brésilien, pas loin de chez moi. Et quelqu'un m'a approché et me dit, écoutez, on a une petite somme d'argent pour des bibliothèques. Est-ce que ça vous intéresserait? Et on s'est dit, mon équipe et moi, pourquoi pas? Et on a donc monté une bibliothèque dans ce camp, dans une ville proche de Port-au-Prince qui s'appelle Léogane, qui avait été touchée aussi. Et donc, on a eu trois expériences à Port-au-Prince et une à Léogane. Donc, les petites bibliothèques. Et là, je voulais surtout, la condition, c'est que ces bibliothèques continuent après. Autrement, ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Et
la condition, c'est qu'il y ait aussi une animation dans les bibliothèques.
Ah oui, toujours. Une animation, donc les jeunes étaient formés à cette animation. C'était intéressant de voir comment, bon, les jeunes qui avaient aussi la formation s'appropriaient le travail, et puis les gens dans les zones venaient, parce que les livres, ce ne sont pas des choses que les gens ont comme ça, aussi facilement. Donc c'était bien. Mmh. Oui.
Mmh. Merci beaucoup Yannick Lins.
Merci.
Et on se retrouve demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruot avec Yannick Lins. À voix nue, réalisation Assia Ralid, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.